Je t'ai choisi, famille de peuple. Je t'ai choisi, église du tabernacle. Je t'ai appelé dès la fondation du monde, des temps. Je t'avais conçu, enfanté. Et je t'ai tout donné afin que tu reçoives la vie et que tu puisses porter la vie. Mais aujourd'hui, église, ce que je désire de tout mon cœur, c'est que tu retrouves ta personnalité, ton identité, la force de caractère que j'ai mis en toi à ta naissance et les valeurs qui ont fait de toi une église forte et puissante. Je désire que tu, à nouveau, que tu ouvres les yeux et que tu ouvres tes oreilles afin que tu vois et que tu entendes ce que l'Esprit dit à l'église et ce que j'ai semé en toi, qui pour moi est toujours oui, amen, parce que mes promesses sont toujours d'actualité. Je désire que tu te rappelles ce que j'ai parlé sur toi. À chacun d'entre vous, mes enfants, mon fils, ma fille, je t'ai placé dans ce lieu parce que j'ai un désir à accomplir à travers toi. Je t'ai choisi pour la vie afin que ta lumière brille dans cette cité et dans cette nation. Mais je voudrais que tu écartes et que tu pousses les murs de ce lieu afin que ces murs n'existent plus et qu'il n'y ait plus de toi, afin que l'on voie briller à travers toi ma parole comme un flambeau qui éclaire dans les ténèbres afin de libérer les captifs, de délivrer les opprimés, de guérir les malades et de proclamer ma parole qui est parole de vie et qui est puissante entre ceux qui marchent dans la foi et qui croient que ce qui est écrit est vivant. Parce que je suis vivant, te dit Jésus. Aucune fois, je ne me suis trompé dans qui j'ai appelé et choisi. En aucun cas, je me suis trompé sur toi, mon fils, ma fille. Je ne me suis pas basé sur tes capacités, mais je me suis basé sur ta disponibilité. Parce que tu es prêt à travailler et à nouveau à offrir ton cœur afin que je puisse le travailler et l'amener à la vie. Et je veux que tu te relèves de cette captivité. Je veux que tu prennes conscience que même si charnellement tu as abdiqué dans l'esprit, tu es toujours debout. Et parce que tu es debout, alors je te donnerai la puissance d'affronter face à face tous les Goliaths et les Dagons qui s'opposeront à ma volonté à travers cette église. Je veux que tu prennes conscience, mon peuple, de qui je suis. Nul ne tient devant ma face et nul ne tiendra devant toi tant que tu demeures dans ma présence. Aujourd'hui, tout à nouveau, l'Esprit se manifeste. Il n'a pas été réservé il y a 2000 ans à une élite, car il n'y a aucune élite dans mon peuple. Il n'y a que des serviteurs de l'Éternel. Il n'y a aucune promotion dans ma famille, que des enfants qui s'aiment et qui s'entraident. Je suis votre père et je le resterai jusqu'à la fin des temps. Alors ne méprise pas les petits commencements et n'oublie pas ce que j'ai dit sur ta vie. Tout ce que j'ai proclamé sur ta vie, ce sont des projets de paix, non de malheur. Et rappelle-toi que ton avenir est fait d'espérance. Vous avez passé une bonne nuit pour certains ? Levez juste la main. Quand je dis une bonne nuit, ça veut dire que vous avez été bousculé. Hein. C'était un jeu de mots à ma façon. Amen. Moi, je n'ai même pas pensé une seconde à vous. Ni à l'église, ni à rien du tout. Je suis tombé et je me suis réveillé. Est-ce que pour cela, je ne vous aime pas ? Vous savez, c'est la Pentecôte. Notre frère Pierre a expliqué, selon la parole, selon l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la raison de la Pentecôte. Maintenant, Dieu me rappelle une chose. C'est qu'il a bien dit à ses disciples qu'il était préférable pour lui qu'il s'en aille parce que nous allons recevoir celui qui allait manifester le royaume de Dieu à travers son peuple, le Saint-Esprit. Et quand il dit qu'il veut manifester le royaume de Dieu, il le fait à travers nous. Donc c'est que le Saint-Esprit a besoin de nous quelque part. D'accord ? C'est pour cela qu'il ne regrette en aucun cas le choix qu'il a fait de nous avoir choisis. Et ça, j'aimerais, parce que c'est ce que je reçois dans mon cœur, c'est ce que moi j'ai compris pour moi-même. Que jamais personne ne vous dise « Dieu s'est trompé sur toi ». Déjà, je commence là-dessus. Que toute parole offensante qui vous dit maintenant « Dieu ne t'a jamais choisi », lève-toi maintenant, là, par, allez, prophétiquement, lève-toi prophétiquement et dis « Je refuse cette parole ». Lève-toi maintenant, je ne plaisante pas. Parce que je sais que dans mon cœur, certains se trouvent illégitimes devant la face de Dieu. Et vous savez, quand Jésus a commencé son ministère à 30 ans, il est dit qu'il fut baptisé, le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe et il était rempli du Saint-Esprit. Or, ce que le Seigneur dit, c'est que vous avez tous été remplis du Saint-Esprit parce que c'est ça la vie. Parce que si vous ne seriez pas là, il faut comprendre que vous êtes tous, que nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Première chose, si ça, ce n'est pas d'actualité, le reste, ce n'est pas la peine. Mais ça ne suffit pas. Parce que même rempli du Saint-Esprit, Jésus, poussé par l'Esprit, fut amené dans le désert pour y être tenté par le diable 40 jours. 40 jours, c'est le temps que Goliath est venu pour influencer Israël. 40 jours. Et c'est toujours à la fin de 40 jours, 40 ans. 40, c'est magnifique, c'est toujours l'accomplissement d'une finalité en Christ, en Dieu. Et quand le diable, comme l'a dit Jérémie, a commencé à exprimer des revendications en disant « Mais Jésus, tu sais qui je suis ? Tu sais que la terre m'appartient ?» Et il n'avait pas tort, parce qu'à cause de Adam, il a pris quelque chose, même par la ruse, mais il l'a pris. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Mais vous savez, quelque chose qui s'est passé, c'est quand il a répondu par la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui est le plus important dans nos vies, c'est le Christ vivant en nous, c'est qu'il est dit, dans Luc 4, c'est qu'une fois qu'il a résisté par la parole, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu a tellement débordé de lui, la coupe a débordé, qu'il fut revêtu de la puissance d'en haut. Il y en a beaucoup qui sont remplis du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit reste là, et on l'empêche de manifester sa gloire et la puissance pour révéler le Christ au monde entier, à travers les prodiges, les miracles, à travers tout ce que la parole de Dieu dit. Mais si nous laissons le Saint-Esprit se manifester comme il se doit, alors il va commencer à déborder, comme l'a dit David dans Psaume 23, « Ma coupe déborde ». Et là, c'est le vêtement, le revêtement, la puissance du Saint-Esprit. S'il s'est exprimé à travers Luc pour Jésus, pourquoi nous on refuserait ? Revêtu, rempli du Saint-Esprit, c'est une chose, mais revêtu, c'est le débordement. Et vous savez, l'ennemi s'opposera toujours à nous si simplement, oui, tu rentres du Saint-Esprit, oui, mais si tu ne le laisses pas agir dans ta vie, tu ne me déranges pas, te dit l'ennemi. Donc, il est vrai que si tu veux détruire Goliath, il te faut détruire Dagon. Et il y a une pensée qui a bien été expliquée et retransmise une nouvelle fois par Pierre-Antoine. La situation, c'est où est-ce que tu te trouves ? Et tout à l'heure, Dieu me rappelait une situation. Vous savez, on peut être en loin de Dieu et être à côté de la plaque. Alors, vous vous rappelez du prophète Balaam ? C'est un prophète. C'est Pierre qui le dit. Ce n'est pas un devin comme j'ai entendu dans des prédications. Non, c'est un véritable prophète de Dieu, puisqu'il connaissait l'Éternel et il servait l'Éternel. Quand on lit Nombre, c'est exact. Mais il s'est trouvé que cet homme de Dieu oint n'est plus dans la présence de Dieu. Alors, comment il n'est plus au milieu du peuple de Dieu ? Il n'est plus avec Israël dans le désert. Il a été retrouvé son père. Donc, il est sorti de la présence de Dieu. Mais il était toujours le oint. Il était toujours prophète. C'est pour cela qu'il a été séduit par Balaam, par Balak, qui lui dit, avec une certaine somme d'argent, je veux que tu puisses maudire Israël. Et vous allez voir qu'à travers cette situation, il y a une séduction qui vient dans l'Église de Christ, corps de Christ en général, qui est tellement sournoise qu'on se laisse leurrer, avoir d'une telle facilité que quand on réagit, on dit non, mais c'est pas possible, comment j'ai pu me faire avoir de cette telle façon? Dans français courant, j'avais de la peau de saucisson devant les yeux. Et on dit, mais comment j'ai pu me faire avoir de cette façon? Comment à chaque fois je tombe toujours dans le piège? Et pourtant, je le sais, et je retombe toujours dans mes travers parce qu'il y a quelque chose de sournois qu'on va découvrir ensemble parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, quand on prend conscience de la situation actuelle de l'Église, comme je l'ai dit hier, il y a toujours une opposition spirituelle dans les lieux célestes sur la terre. Il y a toujours une opposition en haut et en bas. Il n'y a jamais une guerre terrestre. Ça, c'est dans la chair. Mais dès qu'on devient enfant de Dieu et que le Saint-Esprit est en nous, il y a forcément une guerre au niveau spirituel. Toujours. Et l'on dit, oui, mais t'es trop speed, toi, Gabi, tu vois tout le mal. J'ai dit, mais t'inquiète pas, tu étais esclave de Satan, tu ne l'es plus, tu crois qu'il va te laisser tranquille? Et tu crois qu'il va t'envoyer une lettre ou un mail en disant, j'arrive? Avant, c'était très bien, les guerres. On se donnait rendez-vous dans un champ. Vous avez les Français contre les Anglais. Allez, on est prêts. Demain matin, 8h, on se rend dans le lard. Et au moins, les civils, ils n'avaient aucun problème. C'était soldat contre soldat. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Vous allez... Aujourd'hui, c'est sournois. Dommage collatéral. À cause d'une personne, on en détruit 100 qui n'avaient rien à voir. Et c'est ce que fait l'ennemi. Il dit... Je t'aurai et je vais toucher ta famille pour te déstabiliser, pour te détruire. Je vais toucher certaines choses que ton cœur aime particulièrement par-dessus tout. Donc, le Saint-Esprit est venu combattre, et je l'ai dit hier, deux situations. Il est venu combattre Saül et Goliath. Or, on oublie toujours Saül. On pense que Saül, c'est le pauvre. Mais Saül, il l'a cherché. Vous savez que Saül, c'est un choix par défaut. Le roi Saül, ce n'était pas la pensée de Dieu. C'est un choix par défaut. C'est parce que c'est le peuple qui l'a réclamé. Et Dieu a dit à Samuel, laisse tomber, laisse-les choisir. Mais Dieu, dans sa grâce, a quand même mis, parce que c'est une loi divine, et les lois divines, on ne peut pas aller à l'encontre. Il a dit, si les rois, je dois loindre. Et il a reçu la corne d'huile de Samuel. Et il a reçu l'autorité. Et Dieu dit même à Saül, si tu m'obéis, tu verras ce qui va se passer. Il était au courant, comme nous sommes au courant de toutes choses. Mais on sait que Saül, par orgueil et par profit, en a fait autrement. Et il est arrivé qu'à un moment donné, eh bien, les Philistins ont profité de cette situation d'affaiblissement d'Israël pour leur déclarer la guerre. Et là, on se retrouve à nouveau dans la vallée des Térébintes. Et comme j'ai dit hier, si les Goliaths se sont relevés, c'est parce qu'ils n'ont pas été vraiment morts. Et on va comprendre pourquoi ils n'étaient pas morts. Donc, il y a un esprit religieux qui est manifesté par le roi Saül. L'esprit religieux manifesté par le roi Saül et l'esprit de contrôle est manifesté par Goliath. Et vous allez voir que l'esprit religieux, c'est lui qui est sournois. C'est lui le plus terrible. Et Goliath en profite. La stratégie de l'esprit religieux est de nous voiler la vérité de Dieu. Comment il fait cet esprit-là? Il prend la place du Saint-Esprit de façon sournoise jusqu'à nous faire croire que nous n'avons plus besoin d'onction, mais que notre intelligence nous conduit dans toute la vérité. T'es assez intelligent pour comprendre. On devient très terre à terre. On ne croit plus aux miracles. La foi, bon, c'est un peu trop compliqué. L'engagement, ça coûte. Et mourir, je suis encore jeune. Donc, l'esprit religieux va commencer à dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'impliquer à fond dans le service pour Dieu ? Rappelez-vous ce que Malachie dit. Quand le peuple de Dieu dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu as contre nous ? Et rappelez-vous ce que Dieu dit. Il dit, vous avez dit textuellement, qu'avons-nous gagné ? Qu'avons-nous gagné à te servir Dieu avec tristesse ? Moi, c'est le mot tristesse qui m'a sidéré. Parce que qu'il y en a certains qui font des comptes et qui disent, tiens, ils analysent en disant, ah ben, moi je me suis engagé, Dieu t'a pas répondu à mon obéissance, j'attends toujours tes promesses, où sont tes promesses ? Mais que la tristesse vienne, là ça devient grave. Et que Dieu le dise, c'est que c'est la vérité. Et j'oserais dire que c'est 50-50, hein, parce que dans Malachie c'est un peu ça, que la moitié de l'Église corps de Christ aujourd'hui sert Dieu avec tristesse. Donc je comprends, pourquoi il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus de feu. Et je suis heureux que Dieu t'ait donné cette vision, Jérémie. Parce que ça, c'est un feu dévorant. Mais un feu dévorant. Vous savez, quand on avait une plaie à l'époque, on mettait une lame chauffante sur la plaie pour la cicatriser, pour la guérir. Le feu dévorant, il vient pour cicatriser nos plaies qui sont toujours béantes à cause de tous ces Goliaths. Mais le feu, c'est purificateur, donc c'est bien. C'est comme la repentance. Quand j'ai dit hier que la repentance était une façon de nous délivrer, de nous guérir. Le feu purificateur pour notre bien. Et vous savez, une parenthèse, j'ai eu une grande prophétie pour moi-même, une vision qui m'incombe à moi-même. Mais à un moment donné, cette vision, je me voyais sur les hauteurs de Dieu, sur une pierre, là où on fait les offrandes, et j'étais pas lié. Je pouvais fuir si je voulais. J'étais allongé sur cette pierre et le feu est venu me cramer. Et j'étais comme ça, je bougeais, je me suis dit, allez Gabi, fuis. Et il y a quelque chose qui dit, non, reste. Fuis, reste. Et j'ai resté. Et le feu, je le voyais venir, la boule de feu, elle m'a consumé. Je suis resté à un moment donné, j'ai pas vu la tête, mais j'ai vu un homme en blanc avec un verre d'eau me donner à boire. Et je me suis retrouvé dans le fleuve de la parole. Ce qui veut dire qu'il y a des combats à mener qui sont avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est perdu. Donc, le roi Saül, c'est l'esprit de religion. Le roi Saül a perdu son onction, mais il est toujours roi pour le peuple d'Israël. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu, appelés à juste titre, parce que Dieu ne se repent pas des appels, mais d'où l'onction, ce n'est pas qu'ils ont perdu l'onction, c'est que le Saint-Esprit ne peut plus s'exprimer, parce qu'il ne peut pas s'exprimer dans le péché. Il va nous rappeler que nous sommes dans le péché et veut intervenir à cause du péché pour nous guérir et que nous sortions du péché. Mais si nous demeurons dans le péché, c'est-à-dire en opposition au Saint-Esprit, lui, il va rester tranquille, il ne bougera pas. Il ne fera rien. Et comme nous ne supportons pas la sainteté, de par force, nous sortons de cette sainteté. Parce qu'en fait, nous sommes saints tant que nous demeurons dans la sainteté de Dieu. Par nature, nous ne sommes pas saints. C'est parce que Dieu est en nous que nous sommes saints. Vous êtes saints parce que je suis saint, dit le Seigneur. Mais le fait que vous sortiez du lieu saint, vous n'êtes plus saint. Parce que c'est quelque chose qui ne peut pas demeurer dans le monde. La sainteté de Dieu n'existe pas dans le monde. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de vous moquer. Je me moque de ma nièce tout en disant que je suis rempli du Saint-Esprit. Il y a un souci là. Ou je dis à mon neveu, laisse tranquille, de toute façon, au point où on en est, hein. Et toi, tu peux dire, tu as peut-être raison, tonton. On a bossé pour rien. Moi, je ne veux pas être un Balaam. Je ne veux pas être soudoyé par l'esprit religieux pour aller insulter, maudire le peuple de Dieu. C'est exactement ce que faisait Goliath en maudissant le peuple, l'armée de l'Éternel, dans la vallée des Térébintes. Maintenant, 1 Samuel 16, verset 14, il est dit « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Moi, ça me perturbe, ça. Parce que, non, du moment que tu es chrétien, l'ennemi ne peut plus rien. Du moment que tu as donné ta vie à Christ, oui, en apparence. Mais si ton cœur s'est détourné de Dieu, je suis désolé. La Bible nous dit que c'est l'Éternel qui lui a envoyé un esprit. En fait, l'Éternel a permis à un mauvais esprit de se manifester. Il est dit dans 1 Samuel 15, 22 à 23, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et les béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. » Théraphimes, c'est les petites statuettes qu'on adore. « Puisque tu as rejeté la parole éternelle, merci encore Jérémie d'avoir insisté sur la parole de Dieu. » Il est dit, c'est au final, voilà les conséquences. Voilà sur quoi l'Éternel s'est basé, entre guillemets, pour condamner Saül. Parce que Saül a été condamné là. Vous savez, il a été condamné sur quelque chose qui est très simple, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel. Vous savez, si on était en procès, la finalité du procès, sur quoi, juré, vous basez-vous pour condamner ? Il ne va pas dire tous les méfaits. Il a mis à part les brebis, les meilleurs, il a gardé pour lui l'argent et l'or. Non ! Le Seigneur ne va pas te condamner, entre guillemets. Il ne va pas te mettre le doigt là-dessus, il va te dire, tu as rejeté ma parole. Or, encore et encore, nous avons une sale habitude, c'est de penser que la parole de Dieu n'est qu'un livre. Ça, ce n'est pas un livre, hein. Ça, c'est Jésus. Moi, quand je lis la parole de Dieu, et là, la boule commence à venir, là, honnêtement. Et quand le Seigneur me reprend quand je lis la parole de Dieu, je dis, mais Seigneur, je te fais souffrir autant que ça. Je t'offense autant que ça, simplement parce que tu m'as dit, fais-le, et ça fait 10 fois que je te le dis, et 10 fois tu ne le fais pas. Ma désobéissance, elle est parce que j'ai rejeté la parole de Dieu. C'est ce qu'a fait Saül, et les conséquences sont terribles pour lui. Il est toujours roi, mais il a perdu l'onction. Et quand on n'a plus l'onction, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit devient et demeure en cage, l'ennemi n'apporte rien. Il dit, tu es toujours un esclave. D'ailleurs, pour moi, l'esprit de religion, c'est un esprit trompe-œil. Vous savez les trompe-œil qu'on voit dans les immeubles? On croit que c'est réel. On dit, mais ah, le tableau, mais c'est qu'une peinture. On s'y prendrait. Un trompe-œil, un mirage. Dans un désert, il y a un oasis. Hein, ou une? Une. Et alors, on dit homme, et puis on court, et il n'y a rien. Un trompe-l'œil, un mensonge, c'est sournois. Ça nous amène, on court, et on est fatigué. L'esprit religieux nous fatigue, nous épuise. C'est lui qui nous envoie dans des lieux contraires, qui nous fait prendre des chemins opposés. Et alors, à ce moment-là, il dit, cet esprit trompeur, c'est une vérité inexistante, prêt à nous acheter afin d'agir en sa faveur. Et ça, je ne l'avais jamais compris. Vous savez, les promesses de Gascon, j'ai connu ce que je vous dis, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, donc c'est quelque chose de vrai. pour tenir quelqu'un dans une église, il suffit de lui donner un titre, une responsabilité, une reconnaissance. Vous m'avez entendu ? Apporter de la reconnaissance à quelqu'un, chatouiller son orgueil, mettez-le en valeur, présentez-le comme quelqu'un d'important au milieu du peuple, et vous en avez fait un esclave. Samuel 17, 25. C'est la parole qui va vous exprimer. Chacun disait, c'était l'armée, tous les soldats d'Israël avaient entendu la même chose. Tous avaient entendu ce que Saül avait dit. Donc j'imagine que Saül, c'est un responsable dans le corps de Christ. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme, en parlant de Goliath ? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Et il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. Il y a quelque chose de sournois. Si, parce que Saül avait tellement la pétoche, il ne voulait pas prendre, il ne voulait pas faire les sales tâches. Il dit, vous êtes là, vous êtes mes soldats, et si jamais quelqu'un tue Goliath, alors je vais le combler de richesses, je vais le mettre en lumière, le mettre en valeur. Et qui plus est, on va faire une alliance ensemble. Le père et la fille. Les alliances, on en parlera. Encore, c'est sournois. Quand il n'y a plus l'onction dans ta vie, elle est remplacée par l'esprit religieux. Mais l'esprit religieux, ne dites pas que c'est les catholiques. Hein. Ah, faites pas d'amalgame, s'il vous plaît. Hein. On n'est pas là en train de... Non, non, ne vous plantez pas. Hein. Je ne parle pas de statut. Je ne parle pas de ça. Hein. L'esprit religieux, c'est quelque chose qui existe en tant que mauvais esprit. On va parler maintenant de l'influence de l'esprit de Goliath. Celle de Goliath, la stratégie de Goliath, parce que ce sont des stratégies, est d'agir par l'intimidation et la paralysie, en utilisant le mensonge et la tromperie. D'ailleurs, moi souvent, quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, ma mère et mon père parlaient souvent du diable comme étant le malin. C'était surtout le rusé, le malin. Et donc, le malin, c'est quelqu'un, c'est le trompeur. Il trompe sans arrêt. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Satan ? Il a essayé de tromper Jésus en lui disant, si tu me sers, je te donnerai tout. Enfin, frères et sœurs, si Satan s'est amusé à faire ça avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous sommes ? Sauf que l'esprit en nous répondra de la même façon que Jésus a parlé. Vous savez ça ? Vous savez que de la même façon que Jésus a parlé à Satan, l'esprit en nous dira la même chose à Satan. Il est écrit, je suis son fils, je suis sa fille, il est mon Dieu, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. En fait, il est ma vie. Donc tu parles à la mauvaise personne, adresse-toi au Christ qui est en moi. Rien que le fait de parler comme ça, aux problèmes qui surgissent dans nos vies, ça change tout. Faut-il encore le croire ? Faut-il encore le croire ? Donc la stratégie, c'est l'intimidation, la paralysie en utilisant le mensonge et la tromperie. Vous savez, l'intimidation, c'est encore très simple. Je suis désolé, neveu et nièce, mais vous serez les... Hein ? J'ai parlé, hein ? Donc si je viens t'intimider en disant... Je suis ton oncle, tu me dois respect. Point barre. Même si j'ai tort, même si je suis chiant. T'as compris ? T'es venu dans ma famille, Magda, tu m'acceptes comme je suis. T'avais pas à te marier avec mon neveu. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui commande. La polonaise. Bon. Mais c'est sérieux, je commence à avoir une influence un peu telle que elle va en parler à son mari, et je lui dis, oh, toi, ferme-la, d'accord ? Sinon, je vais sortir quelques dossiers. Ah bon ? Et donc, il va dire, oulala, Et là, ils vont commencer à avoir une intimidation telle que l'ennemi est en train de te dire, tu sais que j'ai des droits sur ta vie. Et là, tu vas commencer à te poser des questions. Comment ça, il a des droits sur ma vie? Qu'est-ce que j'ai encore fait ou sur lequel je ne me suis pas repenti? Et là, tu vas commencer à te culpabiliser en disant, il y a quelque chose qui se passe que je ne suis pas au courant, Seigneur. Et qu'est-ce que je vais faire? À travers cette intimidation, je vais commencer à les culpabiliser, les condamner. Et là, c'est la paralysie. Ils ne bougeront plus. Parce que quand moi, réellement, si je vois un serpent, le temps que je rasisse, ça m'est arrivé une fois, j'étais en Italie, ma tante me dit, viens, on va nourrir les vaches dans la montagne et on leur met du sel. Donc les vaches, pour donner du sel aux vaches. Et en discutant, ma tante me dit, fais attention, il arrive que des vipères soient en haut, au moment où elle dit ça. C'est vrai de vrai, hein. Au moment où elle dit ça, j'étais en train de mettre le pied dessus. Et je suis resté planté. Et ça a duré. Vous savez que c'est long, 30 secondes, une minute? C'est long? Ma tante continue à marcher. Hein. Moi, j'étais paralysé. C'est ça. Mais c'est comme si la voix de Dieu te dit, fais attention, regarde où tu mets les pieds. Vous voyez un peu? Le Seigneur, il est toujours dans sa bonté, il parle toujours dans les choses naturelles. Et donc, la paralysie, c'est terrible. Vous ne faites plus rien parce que vous avez peur de prendre des coups. Vous avez peur. Vous dites, je suis fatigué de me battre, je suis fatigué de prendre des coups. Seigneur, si tu pourrais enlever tel problème, ou reprends-le, ou éloigne-le. Et Seigneur a dit, non, ce n'est pas ce que je veux de toi. Je veux que tu retrouves ton caractère, ta force qui était en toi, comme je l'ai dit au début, tes valeurs, ta personnalité, ton autorité. Et tu vas marcher sur cette vipère. Tu vas y marcher sur les serpents et les scorpions. Je veux que tu marches réellement dessus. Mais c'est un serpent, un scorpion. Marche dessus. Et je veux que tu marches pieds nus. C'est symbolique, pieds nus. Parce que si je te lave les pieds, tu es pur. Je ne veux pas que tu mettes de sandales. C'est comme si tu mettais une protection charnelle. Et que tu empêchais mon esprit d'agir. Je veux que tu marches pieds nus sur les serpents et les scorpions, parce que tes pieds sont purs. Et les serpents et les scorpions savent qui tu es, dans l'esprit. Alors, voilà ce que Goliath va te dire. Dieu a-t-il réellement dit que tu pouvais me vaincre ? Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Ève, Dieu a-t-il réellement dit que tu ne pouvais pas toucher tel et tel fruit? Si Dieu a dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, parce qu'il faut obéir à la parole, eh bien Goliath va toujours détourner la parole pour l'amener à son crédit. Est-ce que Dieu a réellement dit que je ne pouvais pas te vaincre? C'est ça l'intimidation. Je répète, Dieu a-t-il réellement dit que tu pouvais me vaincre? C'est l'intimidation. Il va s'opposer à toi. Et vous allez voir qu'il y a des situations dans la Bible qui montrent cette situation. Il est dit, 1 Samuel 17, 11. 1 Samuel 17, 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Saül et tout Israël. Ça veut dire qu'en fait, personne ne peut dire « je n'y étais pas » ou « je n'ai pas entendu ». Tous étaient présents, ils entendirent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Vous savez, quand on est saisi d'une grande crainte, c'est là où justement on est paralysé. C'est ça qui nous paralyse. Les grandes craintes. Et Samuel 17, verset 24, il est dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Là, ils s'enfuirent. Mais écoutez-moi bien, Il y a un rapport entre ces deux versets. Vous ne l'avez pas trouvé des fois? Il y a, au début, ils entendirent les paroles du Philistin. Et ce sont les paroles du Philistin qui ont amené la crainte. Puis, ils l'ont vu. En fait, comment fait l'ennemi? Il parle, parce que n'oubliez pas qu'il est lié. Il n'a que la bouche. Il te parle. Est-ce que tu peux réellement me vaincre? Est-ce que Dieu te l'a dit? Donc, tu entends des paroles qui te disent, ce que tu crois, ce n'est pas la réalité. Tu n'es pas loin de Dieu. J'ai rappelé hier, comme l'a dit Pierre-Antoine, nous sommes tous des oints. Ce n'est pas une sorte, c'est pas un titre d'être oint. Parce que j'ai encore dit hier, dans la parole de Dieu, il n'a jamais été parlé d'onction prophétique, d'onction apostolique ou autre. Il est parlé qu'il y avait des hommes qui étaient oints. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est une réalité. Donc, il entend, le peuple entend ce vociférement, je ne sais pas si ça se dit, ces hurlements, tout ce que dit Goliath. Il s'en prend, il s'acharne, et après, il met un coup direct, il se présente devant toi, à travers un ami, un parent, un frère, ta sœur, des gens du travail, il va s'opposer à toi physiquement, et là, c'est fini. Tu fuis, parce que tu es paralysé quand tu entends l'ennemi te dire quelque chose. Mais quand tu le vois, ce qu'il veut, c'est que tu fuis, tu tailles la route, que tu ne sois pas un obstacle sur son chemin. Parce que autant Jésus est venu pour sauver l'humanité de son péché, mais il est aussi venu pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est ce que Dieu fait à travers son Fils quand il était sur la terre et que nous sommes susceptibles de faire encore et encore. Donc, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, entendre et voir. C'est marrant parce que Jésus dit aux disciples de Jean, racontez-leur ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. Il y a toujours une opposition. L'ennemi dit, tu vas entendre et voir qui je suis. Et Jésus dit, tu diras à tous tes frères ce que tu as vu et entendu. Il y a toujours une opposition dans la parole entre l'ennemi et la parole de Dieu. Constamment, vous verrez une opposition entre la parole. C'est pour ça que l'ennemi ne veut pas que tu lises la parole de Dieu, que tu la comprennes surtout. Parce que la lire, c'est une chose, mais la comprendre, c'en est une autre. Parce que le jour où tu commences à voir les révélations de la parole de Dieu, là, je te dis que la foi commence à grandir. Et là, je te dis que les Goliaths, un après l'autre, ils ne viendront même pas te défier. Alors, Goliath connaît bien l'esprit religieux et ils vont bosser ensemble. C'est ça le souci. Ils vont bosser ensemble. 1 Samuel 17:8. Regardez bien encore ce que dit Goliath, ce qu'il se permet de dire. Le Philistin s'arrêta et s'adressant à toute l'église du tabernacle, rangée en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous rangée en bataille, église du tabernacle ? Ne suis-je pas le Philistin ? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Ah, déjà il est en train de dire, Église du Tabernacle, vous êtes toujours sous l'esclavage. C'est une vérité ou pas? Ah bon, j'espère que ce n'en est pas une. Mais dès que vous commencez à y mettre un doute, vous êtes en esclavage du doute. Vous devenez esclave du doute. Ça y est, j'ai un symptôme de la maladie. C'est bon. Tu es devenu esclave de ce qui est rentré dans tes pensées. C'est pour cela que l'ennemi ne peut que t'influencer dans tes pensées. C'est ça. Le premier accès, et qu'il a toujours accès à l'ennemi, à cause de la partie charnelle en nous, c'est nos pensées. Et c'est quand on entend quelque chose dans l'esprit et qu'on lui donne du crédit, c'est fini. On est dans le piège de l'oiseleur et on se fait avoir. Et le temps qu'on réagisse, d'ailleurs, ma sœur m'a donné un exemple, Isabelle, d'une femme de Dieu qui a mis 1 an et demi à se sortir d'une parole. Tiens, à la fin, tu diras, Isa, parce que ce qu'elle m'a dit, c'est surprenant. C'est intéressant. Et il est dit, n'êtes-vous pas esclave de Saül? Choisissez un homme. Bien sûr que Goliath a dit, si je choisis un esclave de Saül, je choisis quelqu'un qui est soumis à l'esprit religieux, je vais en faire ce que je veux. Et je vais en faire ce que je veux, il m'appartient. Alors, toute l'armée d'Israël est soumise à Saül et donc à cet esprit religieux. Ma prière, c'est qu'on le brise cet esprit. À la fin, on va briser certaines réalités mensongères. Parce que ce sont, tu sais, bien, mal, mal, bien. Et on donne du crédit et on fait devenir des réalités des choses qui n'en sont pas. C'est ce que j'ai dit, c'est ça, la sournoiserie de l'esprit religieux. C'est de nous faire croire que certaines choses qui n'existent pas sont réelles. Donc, Goliath fonctionne par la peur, le doute et le découragement. Mais encore une fois, mes bien-aimés, si vraiment le diable voulait nous détruire, il l'aurait déjà fait, s'il le pouvait, pas s'il le voulait. S'il le pouvait, vous pensez qu'il ne l'aurait pas déjà fait? S'il voulait détruire l'église du tabernacle, vous pensez qu'on n'aurait pas déjà mis la clé sous la porte? C'est pas une histoire de dîmes et d'offrandes. C'est pas une histoire de dire nous on est 50 ou on est 10 000. C'est une histoire de foi, de caractère, d'identité. Parce que vous croyez qu'une église de 50 000 membres est plus bénie qu'une église de 10? Je ne dis pas qu'il faut se satisfaire du nombre. Je dis que Dieu est présent dans les cœurs sincères, purs et irréprochables, peu importe le nombre. D'ailleurs, on va voir qu'il en a fallu qu'un. Un seul, mais qu'ils n'aient pas parti de la bande. Encore une fois, Dieu dit, j'ai besoin de toi, parce que le monde a besoin de moi. C'est la première parole prophétique que j'ai reçue. J'étais avec Alain en 92 à Abidjan, un matin, seul devant la parole de Dieu, parce que j'aime cette parole, et que j'entends clairement dans l'esprit, Gabi, mon fils, d'ailleurs il n'a pas dit Gabi, il a dit Gabriel, mon fils, j'ai besoin de toi parce que le monde a besoin de moi. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de travailler à travers toi. Et je ne t'ai pas choisi au hasard, comme chacun d'entre vous n'avait pas tiré au hasard. Ce n'est pas une loterie. Alors, voilà comment l'ennemi voudrait que l'on se voie. Nombre 13, 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël. Ça veut dire que les 12 sont revenus. En donnant l'état des lieux de leur retour en Canaan lorsqu'ils ont été l'explorer. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer par un pays... Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Goliath, il est toujours là. Hein. Mais les Goliaths, ils y seront toujours, les 3 mètres de haut. Et ils ont été même avant que l'homme existe. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, comme des sauterelles. Et toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Moi, j'ai bien dormi. Ils pleurèrent sur ce qu'ils avaient vu et entendu. Or, c'est toujours du charnel, puisque la parole de Dieu nous dit autre chose. Le combat paraît si grand et si inégal que nous tombons dans l'incrédulité et dans le mensonge. À la vue de cet homme, tout Israël s'enfuit, saisi d'une grande crainte. Quand l'onction se retire, les esprits contraires se manifestent par la contradiction et la perte de conscience. Et là, je vais vous montrer 5 ou 6 exemples de la folie que peut engendrer la religiosité et Goliath ensemble. Regardez bien comment Saül, étant le roi ouin, est tombé dans une déchéance terrible. Vous allez voir, exemple de contradiction sournoise qui rentre dans l'Église aujourd'hui. Il est dit, 1 Samuel 16-18. L'un des serviteurs, parce que Saül avait besoin de quelqu'un qui puisse l'aider. OK ? Écoutez-moi bien. Vous allez bien faire la comparaison. Suivez bien. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, ça te rappelle quelque chose, qui sait jouer. C'est un homme balèze, fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Voilà déjà comment quelqu'un qui fait partie de l'entourage de Saül décrit David. David est inconnu à ce moment-là. Vous voyez comment il le détruit ? Regardez bien dans 1 Samuel 17:33. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Au préalable, c'est un homme fort, vaillant. L'Éternel est avec lui. Il y a toutes les louanges de Dieu. Qu'est-ce que dit l'esprit religieux ? « Mais David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. T'es un gamin. Tu n'as pas d'onction. » Puisqu'il l'a perdu, lui. « Moi qui suis roi, j'y vais pas. » Alors toi, t'imagines. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Vous voyez la contradiction ? Vous voyez, quand on commence à lire la parole de Dieu et que l'Esprit commence à te dire, écoute, t'as entendu ce qu'il a été dit sur David, hein, de l'Éternel ? Vous entendez ce que l'Éternel dit de vous ? 1 Samuel 16-18, c'est ce que Dieu dit de vous. 1 Samuel 16-18, c'est ce que Dieu dit de vous. 1 Samuel 17-33, c'est ce que l'Esprit religieux dit de vous. Vous donnez du crédit à qui ? 1 Samuel 16, 21-22. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, père de David, « Je te prie, laisse David à mon service qu'il aurait trouvé grâce à mes yeux. » Bon, il a bossé un certain temps avec Saül, David, c'est pas un inconnu quand même. Hein? Peut-être 1 ou 2 ans, il était porteur d'armes, il jouait de la harpe. Quand le mauvais esprit était là, il était content que David soit là. Quand on est malheureux, qu'on est désespéré, qu'on est découragé, on est content quand on a un frère ou une sœur qui est là, disposé à nous donner des paroles de réconfort, des paroles de sagesse de la part de Dieu. On est content et on ne l'oublie pas. Donc je reviens cette fois-ci, Magda m'encourage. Elle me fait du bien. Elle me dit, tonton, t'inquiète pas, ça va aller, on prie pour toi. Et ça marche. Vous croyez que je vais l'oublier ? J'ai dit, oh, Magda, c'est bien Jérémy que tu l'aies épousé. D'accord ? Mais regardez ce que dit 1 Samuel 17, 55-58. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils ?» Ah, ça y est, il a déjà oublié. Et il ne sait plus qui c'est. Il a oublié. Et l'autre qui répond, ben, au roi, aussi vrai que ton âme est vivante, au roi, je l'ignore. Mais c'est quoi cette histoire ? Mais vous rendez compte, la subtilité, c'est ça, c'est sournois. Ce qui est vrai devient faux. Et il met en vérité des choses inexistantes. C'est une trompe-l'œil. Et l'esprit religieux va vous faire croire que tu es à la bonne place et que tu fais les bonnes choses en somnolant. Reste au lit et ne dérange personne. Parce qu'au lieu d'aider, ça va être pire. Vous savez, les gens qui ont les bras cassés disent, c'est bien, tu veux me donner un coup de main, mais reste tranquille parce que sinon, ça vous est jamais arrivé ? Quand quelqu'un vous propose son service de vous aider, mais vous savez, s'il prend la truelle, ça va être pire. Merci pour ton aide, mon frère. Reste pris pour moi. Voilà. Il y a des gens qui sont... Mais... Regardez bien une autre aberration, contradiction. 1 Samuel 13-14. Et maintenant, ton règne ne durera point. Pourquoi ? L'Éternel s'est choisi un homme selon le cœur de Dieu. C'est David. Donc, on sait tous, et l'ennemi sait, parce que Saül sait, que Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Ouin. D'accord ? Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, là, tout le monde sait, Et surtout, une famille sait que David a été choisi de Dieu. Loin. Une famille dont il y avait 7 mecs. Mais surtout un très grand orgueilleux, le premier. Lui, c'est vraiment l'esprit religieux. 1 Samuel 17-28, Éliab, le frangin, l'aîné, son frère aîné, qu'il avait entendu parler, parce qu'il était en train de dire, mais c'est quoi cette histoire-là? Tout le monde se laisse menacer par ce gars-là. Bref, il dit, Éliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais, écoutez-moi bien, ce que dit l'esprit religieux aux serviteurs de l'Éternel, à ceux qui sont saints et irréprochables. Regardez et entendez ce que l'esprit religieux dit. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Il va s'opposer à ce que Dieu a dit de toi. Tu es un homme selon le cœur de Dieu. Dieu te dit, Magda, tu es ma fille, tu es une femme selon mon cœur. Vous savez ce que ça veut dire, une femme selon son cœur? Ça veut dire que tout ce qu'elle fait, elle est en accord avec Dieu. Et moi, je viens derrière en disant, mais t'es la pire des orgueilleuses, retourne en Pologne. T'es venue abandonner tes deux filles et ton mari pour venir voir ce qui se passe? T'as pas autre chose à faire? Y a pas à manger à faire? Le ménage à faire à la maison? Qu'est-ce que tu fais là, derrière ton piano? Hein? Mais qu'est-ce que tu fous derrière le piano là, franchement là? Tu crois qu'il n'y a pas autre chose à faire? Depuis quand les femmes elles sont à la louange? Vous rigolez? Vous rigolez? Mais si on était sincères et qu'on ouvrait notre cœur, combien de fois l'ennemi nous parle comme ça? La malice de ton cœur. Continue à jouer du piano, Magda, sans malice, il n'y en a pas. Et maintenant, on rentre et on finit. Vous avez vu un peu les contradictions entre ce que Dieu te dit et ce que l'ennemi te dit? Puis à la fin, on dit, mais si l'ennemi l'a dit, c'est que c'est vrai. Maintenant, Dieu cherche des hommes et des femmes qui n'ont pas déposé les armes, qui n'ont pas abdiqué. Il est dit, 1 Samuel 17, 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» L'opprobre, c'est la honte. Le mot opprobre, c'est la honte. Et quand la honte vient sur une famille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cache. Vous savez, quand on a honte, on fuit. On va dans les tombes. On se camoufle. Plus personne ne sait si on est vivant ou pas, à cause de la honte. Parce que si vous sortez à la boulangerie chercher du pain, tu as vu, c'est le fils de un tel. Magda et Jérémy, et ça murmure, et ça murmure, et les cancans, et ça murmure, et ça murmure, et ça murmure, et ça murmure. D'ailleurs, c'est à cause des murmures que l'Éternel s'est mis en colère contre le peuple d'Israël. À cause des murmures, mes frères et sœurs. Et David répondit, mais qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Parce qu'il a dit, mais c'est qui c'est ce Goliath-là qui insulte l'armée du Dieu vivant? Oh, Goliath n'a jamais insulté Dieu. Hein. Vous avez saisi le jeu là. Vous avez vu que Goliath n'a jamais insulté Dieu. Parce que Satan connaît Dieu. Mais il insulte qui? Les enfants de Dieu. C'est nous qui l'insultent là. Mais David, il avait compris. Or, David, il venait d'où? Il avait été préparé comme nous sommes préparés depuis la naissance, depuis la fondation du monde. Nous avons été préparés comme David a été préparé. Vous savez ce que c'est? Une mise à part. Vous comprenez ce que c'est qu'une consécration? Vous savez ce que ça veut dire qu'une sanctification? C'est quelqu'un que Dieu a mis à part. C'est-à-dire qu'il en a choisi 1000 et il a dit, celui-là, je vais en faire un homme ou une femme puissante. Et il a choisi, puisque vous avez été choisi de Dieu, donc loin de Dieu, vous avez été mis à part pour quelque chose de puissant. C'est d'apporter la vie. La chose la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est de donner la vie. Et de combattre ceux qu'ils veulent l'ôter. Vous comprenez ? La plus grande grâce que Dieu nous donne, c'est de porter la vie, faut-il encore qu'on soit vivant, et d'empêcher qu'on ôte la vie. Et voilà David qui arrive. Il était loin. Et lui, il a été indigné d'entendre ces paroles. Et il a tout de suite discerné ce qui se manigance. Vous savez, les 7 frangins de David, vous n'avez jamais fait une remarque ? 300 en bataille, 300 à la guerre, ils sont où les 4 autres ? Vous n'avez jamais posé la question ? Mais ils sont où les 4 autres ? Pourquoi ils n'ont pas gardé les brebis ? Ils étaient où ? Vous savez, dans l'église, il y en a 3 qui prennent les devants, des fois un peu trop. Il y en a 4 autres qui disent « Moi, je suis un assisté. » Mais on s'en moque pourvu qu'il y ait un ou un. Un seul, Dieu dit. J'en veux un dans toute l'église. Il dit « J'en veux un. » Alors bien sûr que vous allez, Magda ne va pas dire « Allez, Jérémy, chef de famille, c'est toi. » Et toi, tu dis « Non, pourquoi ce serait pas toi ?» Alors, vous n'allez pas vous disputer. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'à travers un, vous tous, vous ne faites qu'un. Parce que vous pensez que l'ennemi est en train de dire « Bon, alors, c'est Alain, c'est Jérémy, c'est Philippe, c'est Antoine, c'est qui ?» Voilà ce que l'ennemi est en train de dire. C'est qui, loin de l'Éternel ? Et Dieu dit « Mais t'es sourd ou quoi ? C'est toi que j'ai choisi. C'est toi, Anaïs, que j'ai choisi. C'est toi, loin de l'Éternel. » Il y a une deuxième Anaïs, là ? Il y a une deuxième Anaïs dans l'église ? Ah ben non, ben c'est toi. T'as pas de bol, hein ? Dieu t'a choisi. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, Anaïs, maintenant ? Il s'est trompé ? Bon. Ben, si c'est pas trompé, ben, va falloir que... C'est ça, en fait. David, c'est nous. C'est nous, David. Et on vient au rendez-vous dans la présence de Dieu. Et Dieu a dit, 40 jours, Goliath, tu attendras que j'envoie mon champion. 40 années dans le désert, mais ils ont traversé. 40 années, je n'ai pas mangé, mais j'ai parlé à Satan. 40 ans, et c'est la victoire. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est qu'il peut y avoir autant d'esprits au milieu de nous qui vont empêcher que cette église croisse à tous égards. Si vous donnez du crédit à ce que vous entendez, ce que vous voyez, alors cette église va végéter. Elle va végéter, et encore végéter, elle va mourir. Mais si vous croyez que Dieu a appelé cette église à la vie, et à porter la vie, et à donner la vie, je vous dis que ce que Dieu a dit dans la nuit des temps, c'est oui et amen. Goliath ne peut rien faire que ce qu'on lui permet de faire. C'est tout. Et je finis rapidement, et vous allez vous retrouver dans ces 3 arbres, et là je ferai un appel pour qu'on prie, parce qu'en fait, il faut commencer, vous avez compris depuis hier, comment détruire Dagon et comment détruire Goliath. Maintenant, il faut le désarmer. Il faut quand même désarmer Goliath. Parce que s'il a enfanté, ou s'il a des frangins, comme il est dit, ou s'il a fait des petits Goliath, et qu'ils viennent dans 2 ou 3 ans, qu'ils reviennent, s'ils n'ont pas d'armes, vous savez que les Philistins, juste avant, avaient interdit à toute l'armée d'Israël d'avoir des armes. Toute l'armée d'Israël n'avait pas une épée, sauf Jonathan et Saül. Sinon, ils étaient venus sans armes. Il faut le faire pour les battre sans armes. Mais l'arme que nous avons, l'épée de l'esprit, elle est unique. Et nous avons tous la même. Elle est ointe. Donc, Goliath s'est amené, C'est pour ça qu'il est dit que Dagon, quand il est tombé, la tête est tombée et les bras sont tombés. La tête, c'est la pensée. Elle donne des ordres. Si la tête n'existe plus, il n'y a plus d'ordre. C'est la déchéance. Et c'est pour ça qu'une armée sans généraux ne sait pas combattre. Mais si en plus vous lui coupez les mains, c'est ce qui est arrivé à Dagon, les mains sont tombées. Comment, sans les mains, vous pouvez prendre une épée? Et donc, il avait une épée, une lance et un javelot. Et comme je vous l'ai dit, l'épée, c'est la tromperie et le mensonge qu'utilise Goliath. Et nous avons l'épée de l'esprit de la vérité. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, la lance est utilisée pour déstabiliser et faire tomber dans le péché, dans l'incrédulité et l'idolâtrie. Alors tu vas me dire, mais l'idolâtrie, encore une fois, je vous en supplie, ne faites pas un amalgame avec les statues. L'idolâtrie, ce n'est pas ça. C'est quand vous opposez quelqu'un en disant, ce prédicateur, il est beaucoup plus intéressant que l'autre. Vous l'avez déjà idolâtré. Et que vous refusez d'entendre la parole de Dieu, si ce n'est à travers la bouche de cet homme ou de cette femme. C'est fini, hein ? Vous êtes piégés. Parce que si Dieu est en train de parler à l'autre, vous allez refuser sa parole, alors qu'il parle réellement. Mais si jamais l'orgueil est venu sur la parole de cette personne que vous idolâtrez, elle vous détruira. C'est pour ça que je vous ai dit, vérifiez tout ce qui se dit dans la parole de Dieu, qui que ce soit qui parle. Et le javelot a pour but de nous freiner, nous ralentir, de nous arrêter sur le chemin de la promesse. Et ça, c'est le plus compliqué. Ça, c'est le plus côté le plus sournois. Et c'est là où je vais insister. Parce que autant le mensonge et la tromperie, si on est un peu discipliné dans la parole de Dieu et dans l'esprit, dans la prière, on comprend ces choses. Si on est un peu dans l'unité de l'esprit, dans le discernement, on peut comprendre que l'incrédulité et l'idolâtrie, c'est visible. Manque de foi. Mais le pire, c'est bien le javelot, parce qu'on ne le voit pas arriver. L'épée, vous la combattez, et la lance, vous la combattez. L'épée est corps à corps, la lance à 2 mètres. Mais le javelot, vous ne le voyez pas arriver. Et vous savez ce que c'est ? C'est les compromis et les tolérances. Et vous savez, je vais vous donner un exemple, comme ça au moins je ne jugerai personne, mais des exemples que nous avons vécu avec Philo. On était pleinement au service de l'Église, on servait Dieu et tout, et puis vous savez, l'affection fait que, au travail, j'avais un couple qui avait perdu la nounou, elle avait 2 enfants en bas âge, une qui avait 2 ans, et l'autre qui en avait 4. Et donc, vous savez, j'en parle à Philo, je dis, oh, pff, le temps qu'ils trouvent une nounou, ils disent, tu ne connais pas quelqu'un pour un petit mois pour nous garder les enfants. Bah, connaissez le cœur de Philo. C'est bon. Sauf que ça a duré 4 ans. Et puis, on a gardé une autre avec 3 enfants. Puis, à un moment donné, à travers la bouche d'une sœur, le Seigneur dit, mais c'est légal ce que tu fais? Parce que, bien sûr, il nous payait. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai été chercher dans toutes les lois sur Internet si jamais il n'y avait pas un truc qui pourrait me permettre de faire ça. Je donnais même la dîme de ce qu'il me donnait. Il me dit, tu rigoles? Tu fais quoi là? J'en veux pas de ta dîme. C'est sale. C'est souillé. Et nous, on pensait faire du bien, d'aider son prochain. Ce n'était pas du tout notre prochain. Et c'est ça, compromis, tolérance. Et à un moment donné, je lui dis, à un moment donné, le Seigneur dit, t'en as pas marre de chercher? Tu es dans l'illégalité, point barre, arrête. Cherche pas. Et je vous donne plein d'exemples. Hein. D'autres, vous êtes à table, en famille, vous discutez. Un des enfants ou un des amis vous donne une situation et vous êtes d'accord, alors que c'est un truc débile, qui jamais vous devriez le faire taire, la personne. Ah, je comprends, ouais, je comprends ton attitude. Ouais, j'aurais fait la même chose que toi. Comment ça, t'aurais fait la même chose que toi? Vous savez où je veux en venir? Au lieu de dire à la personne, ce que tu fais n'est pas juste, malheureusement, tu récoltes ce que tu as semé quelque part. Moi, je parle surtout quand on parle aux enfants ou aux parents. Notre devoir, c'est de dire, là où tu t'engages, il y a danger. Vous les avez prévenus. Les cohabitations. Tu ne peux pas t'engager dans une alliance où Dieu n'a pas mis son cachet. Comment tu peux dire « Oui, mais il va changer ou elle va changer ?» Je suis désolé. Depuis quand tu prends la place de Dieu ? La parole de Dieu est claire. Je finis par... Parce qu'il faut toujours la parole de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 7. Vous savez, la parole de Dieu, il ne faut pas s'amuser avec. Hein. Il est dit, 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » C'est quoi un infidèle ? C'est un non-croyant. C'est tout simple. Hein. Un infidèle, c'est un non-croyant. C'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'appartient pas à Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire, vous ne savez pas. Vous faites une alliance de travail avec quelqu'un, un partenariat avec quelqu'un, mais que celui-là, il travaille avec les démons, vous n'en savez rien. Il y a des exemples, je peux vous en sortir. Et après, vous tombez en faillite, ou il vous vole, ou vous divorcez, ou vous tombez malade, plein de choses. Mais c'est un étranger, tu ne sais même pas. Pourquoi la parole de Dieu dit tu ne verras pas une prostituée. Pourquoi ? Parce que la semence fait de la prostituée spirituellement, elle passe chez toi. C'est symbolique dans l'esprit. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Si nous sommes justes, pourquoi collabores-tu avec l'iniquité ? Ou pourquoi cautionnes-tu quelque chose qui se dit à table en disant « Oh, moi, tous ces Arabes qui repartent dans leur pays ?» Et tu entends une voix qui dit ouais, « C'est vrai qu'ils sont nombreux. » Façon de dire, tu as raison. C'est pas vrai ? Alors je suis le seul hein, qui l'a entendu. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? C'est pour ça tout à l'heure je disais « Mais quand on est hors de l'onction, quand on est hors de la présence de Dieu, on est influencé par l'ennemi, il fait ce qu'il veut. Bon, c'est pas grave. Je suis en train de faire ma piscine. Si je l'aurais fait faire par quelqu'un, ça me coûtait 7000 euros. Pas riche, moi. Ça peut pas m'aider, non ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? L'huile de coude, Saint-Esprit. C'est la première fois de ma vie que je me suis jamais engueulé avec moi-même en bossant. Pendant 2 mois, j'étais heureux, paisible, en paix. Eh bien, quand vous êtes paisible et en paix, vous faites du bon travail. Et j'étais content parce que les carreaux étaient alignés. Alors que ceux qui connaissent ma baraque et qui savent le travail que j'ai fait avant, c'est comme ça. Et là, c'est le droit. Ah, j'étais heureux. Mais on m'a proposé de dire, je connais quelqu'un, il te le fait. Ouais, combien il prend ? Pas cher. 3 000, ça veut dire quoi ? Et les autres 4 000, ils sont où ? Mais non, il te donne un coup de main pour 3 000. Je dis, mais ça va pas. Tu sais qui je suis. Moi, j'ai répondu comme ça. Mais tu sais qui je suis. Tu sais quand même en qui j'ai mis ma confiance. Tu sais qui est mon Seigneur. Tu me proposes quoi, là ? Malheureusement. Mais combien j'en ai entendu qui sont longs. Et après, Dieu bénit pas. Quel rapport y a-t-il entre le temple et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Mais ça, c'est magnifique. Tant que nous demeurons dans la présence de Dieu, et que Dieu est notre temple, et que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous, tout est magnifique, tout est favorable. Et ça, c'est vraiment une vie selon l'Esprit. On marche dans l'Esprit, on marche avec le Seigneur, on marche en droiture, on marche en espérance, et le oui était oui. Et tout ce que dit Dieu s'accomplira, parce que nous sommes dans la vérité. Alors je veux simplement que vous puissiez comprendre que si vous devez désarmer Goliath maintenant, que tous ceux qui ont un problème avec le mensonge et la tromperie, qui se laissent facilement avoir par « Dieu a-t-il réellement dit ?» levez-vous de votre place. Ceux qui ont un problème avec le mensonge, qui facilement se laissent avoir. S'il n'y a personne, il y a un problème. que je sais quand même ce que Dieu me dit. Et encore une fois, qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce qui a été répondu? Qu'est-ce qu'une repentance? C'est d'admettre qu'on est dans une situation défavorable, tout simple. Et quand on admet qu'on est dans une situation défavorable, Dieu délivre et il guérit. C'est tout simple. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous reconnaissions que nous sommes dans une situation qui nous est défavorable. C'est ce qui s'appelle une repentance. Ça veut dire, se repentir, c'est de revenir pleinement à Dieu, sans pour cela que l'on ait péché. Mais on s'est laissé berner, on s'est laissé avoir par le mensonge et la tromperie. Alors maintenant, éternel mon Dieu Tout-Puissant, je sais que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tous ceux qui se sont levés parce que tu les as oints, qui sont comme David, Seigneur, maintenant, en ton nom, nous brisons toute influence liée au mensonge et à la tromperie. Seigneur, tu nous as appelés à la vie, tu nous as sanctifiés, mis à part, consacrés. Alors, tout ce que Dieu a dit sur votre vie, et oui, et amen, vous m'entendez? Tout ce que Dieu a dit sur votre vie, et oui, amen. Et oui, réellement, vous pouvez détruire Goliath. Oui, vous avez l'autorité. Oui, parce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est sur vous et il vous a oint pour annoncer une bonne nouvelle, délivrer les captifs et libérer les opprimés. Oui, oui, vous pouvez faire front et menacer celui qui menace l'Église du corps de Christ. Oui, vous pouvez vous lever comme David et détruire Goliath. Oui, oui, vous avez été trouvé légitime de vous trouver dans la présence de Dieu et d'y demeurer parce que c'est là où l'ennemi a peur. Il a peur que vous demeuriez, que vous restiez dans la présence de Dieu et que vous preniez conscience que vous êtes réellement le temple du Saint-Esprit. Alors, je vous le dis de la part de Dieu, il vient sur vous un discernement nouveau. Entendez-moi bien, vous qui vous êtes levés, un discernement nouveau vient parce que Dieu va renouveler ton intelligence et tu vas comprendre quand c'est une sournoiserie de la part de l'ennemi, quand l'ennemi va essayer de te tromper, tu te diras « Non, tu m'as eu dans le passé, aujourd'hui c'est moi qui t'écrase ». Parce que je connais qui est mon Dieu et qui je suis. Et tant que je resterai dans la présence de Dieu, saint et irréprochable, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Voilà ce que Dieu te dit. Et si tu le crois réellement aujourd'hui, alors à partir d'aujourd'hui, une saison nouvelle commence pour ta vie. Je dis bien, une saison nouvelle commence dans ta vie. Rien ne pourra s'opposer à ce que Dieu vous a dit. Maintenant, à ceux qui ont un problème, donc vous savez très bien, pour vous qui êtes debout, dans l'esprit, j'aimerais que vous puissiez voir celui qui vous menace désarmé. Et ça, vous pouvez le demander à Dieu. Et Dieu va vous montrer. Il peut vous le montrer dans l'esprit, même physiquement ou dans les jours qui viennent, une situation où tu verras ton ennemi désarmé et il n'aura que la voix pour t'intimider. Or, s'il est désarmé, tu l'as vaincu. Qu'as-tu à combattre que je n'ai déjà vaincu, te dit le Seigneur. Ok? Donc ça veut dire que toute agression par l'épée, tu dois la voir comme l'ayant vaincu. Déjà. Ce n'est pas une option, c'est une réalité. L'épée, donc la lance, utilisée pour déstabiliser et faire tomber dans le péché de l'incrédulité et l'idolâtrie. Vous savez, l'incrédulité, elle est très simple. Quand le Seigneur te dit « j'ai besoin de toi pour faire ceci ou cela » et que tu commences à calculer si tu as la possibilité d'arriver au bout, tu dis « mais non, moi je ne suis pas capable, mais non, je n'ai pas la formation, je n'ai pas les finances, ou je n'ai pas le don, ou autre. » Vous allez commencer, parce que la chair va commencer à argumenter que vous n'êtes pas celui qui potentiellement peut répondre aux besoins de Dieu. Et vous allez argumenter, 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 parce que c'est ça l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quelque chose qui vous fait argumenter contre Dieu. En disant, c'est exactement ce qu'a fait Moïse, il a argumenté en disant, je suis un bègue. Je ne peux pas parler, et tu me demandes de parler à Pharaon. Dieu dit, c'est un argument que je ne veux pas. Et là, c'est terrible quand Dieu s'enflamme de colère. Parce qu'il a tellement besoin de toi que Dieu dit, j'en ai marre, lève-toi, marche en nouveauté de vie, tu verras, et tu verras que la foi va grandir, parce que si tu me permets, je susciterai dans en toi une foi nouvelle, encore comme tu n'as jamais connu. Vous savez ce que c'est ? Que de se lever, et d'un coup, il y a un poids qui tombe de 100 kilos. Vous étiez tellement courbé comme cette femme qui marchait comme ça, le poids de l'incrédulité, de la honte. Et d'un coup, le Seigneur te dit, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est ça l'amour de Dieu. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, j'enlève cette incrédulité maintenant, au nom de Jésus. Toutes les lances qui se pointent contre toi, je la brise maintenant. Toute arme forgée contre toi n'a plus aucun effet. Et à travers cette fausse incrédulité, il n'y aura aucune idolâtrie. Parce qu'on va se cacher, se réfugier devant des hommes ou des femmes comme des assistés. Or, nous ne sommes pas des assistés. Nous sommes des sacrificateurs de l'Éternel. Nous sommes des térémanes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et là, je voudrais prier pour le plus dangereux. Ce javelot qui vient de on ne sait où. Je finis là-dessus. Au milieu de vous, il y a beaucoup de coléreux. Vous sortirez de cette pièce. Vous allez monter dans la voiture. La première personne qui va vous faire une queue de poisson, vous allez l'insulter. Hors de la présence de Dieu. Des attitudes à table qui ne seront pas conformes à ce que Dieu dit. Parce que on pense qu'on a raison et on impose nos pensées. Et on ne donne pas le choix aux autres de donner aussi leur avis. Et c'est la guerre. C'est la bataille. Ça, c'est la folie, destruction dans la famille. L'ennemi dit division entre le mari et la femme ou entre les enfants pour simplement une vaine dispute, un vain discours qui amène la dispute. Pour une peccadille, c'est l'engueulade. Ça, c'est le javelot. Et tolérance et compromis, parce que ça ne peut jamais jaillir quand il y a l'unité dans l'esprit, dans une famille. Quand on est uni par l'esprit, qu'on pense la même chose et que notre vision est celle du Christ. Et on se met en accord en disant, on ne va pas se laisser avoir par l'ennemi. Quand on est en relation avec des gens extérieurs qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas fils de roi, comment pouvons-nous pouvoir projeter un avenir avec des gens qui, à l'instant T, si Dieu revient, sont condamnés? Comment on peut se projeter sur quelque chose que l'on ne connaît pas? C'est ça les alliances et compromis. Souvent on dit, c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin ou c'est Dieu qui a permis cet emploi. Mais as-tu consulté Dieu pour savoir si réellement il était dans l'affaire? C'est simple de consulter. Combien de fois j'ai pris des choses, j'ai fait des choix regrettables et Dieu m'a dit, mais il t'avait suffisait simplement de me consulter pour un achat, pour ceci, pour cela, qui après est regrettable. C'est ça le problème de la tolérance et des compromis. Et c'est ça qui affaiblit le corps de Christ. C'est le pire, ça attaque les fondements de l'Église. Le javelot attaque le fondement de l'Église. Mais encore une fois, et je finis, si tu reconnais ce que Dieu te dit, parce que si tu fais un déni de ce que l'Esprit met en lumière, il vaut mieux avoir Satan comme ennemi que Dieu comme ennemi. Vous lisez ça dans Hébreux 10. Vous ne pouvez pas recrucifier deuxième fois le Christ. Le pire, c'est ça. Et je ne voudrais pas me retrouver devant le tribunal de Christ avec un sac à dos plein. C'est trop tard. Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Si dans votre cœur Dieu a parlé, mais que vous faites un déni, c'est une responsabilité que nous avons. Et derrière, il y a des conséquences. Et je préfère être dur, c'est-à-dire prévenir, que guérir. Nous sommes tous responsables des uns des autres. Et je ne veux pas être Caïn. Quand Dieu lui dit, où est ton frère ? Mais moi, je ne suis pas le gardien de mon frère, si je le suis. Et si aujourd'hui, j'ai parlé de cette façon, peut-être durement, mais je ne suis qu'un homme, j'ai parlé de la part de Dieu, et ça, personne ne me l'enlèvera. Aucun Goliath ne viendra me dire en sortant, mais pour qui tu t'es pris ? Ce n'est pas de l'orgueil que je vous ai dit. Parce que maintenant, je connais réellement mon identité. Je sais qui je suis. Imparfait peut-être. Des paroles un peu dures. Des exemples un peu tordus. Mais je sais au fond de moi ce que Dieu m'a demandé de vous partager. Parce que je sais que Dieu a mis sa main sur cette église. Et la première prière que j'ai faite quand j'étais jeune chrétien, la première chose que j'ai dit à Dieu, je t'en supplie Seigneur, que jamais ta main ne se retire de ma vie. C'est ce qu'il a fait sur Saül. C'est pour ça que cette situation, je l'aime. La main de l'Éternel s'est retirée de sur Saül. Et j'ai prié en larmes, j'ai dit, Seigneur, je m'en souviens, que jamais, oh jamais, ta main ne se retire dessus de moi. Mais corrige-moi avant que je fasse une connerie. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir supporté, écouté. Et la gloire de Dieu, elle est là.